Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du Chemin Rouge. Nous espérons que vous allez bien en ce vendredi 27 juin 2025. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial qui va nous parler de nos pratiques numériques et plus particulièrement des logiciels libres.
De nos jours, l'informatique occupe une place importante dans nos foyers. Nous l'utilisons dans de très nombreuses tâches quotidiennes, du traitement de texte à l'intelligence artificielle comme ChatGPT, en passant par les jeux vidéo et l'impression de documents, les voyages, la santé, le sport.
Tout cela repose sur l'utilisation de logiciels. Derrière ces logiciels, il y a souvent de très grandes entreprises qui ne privilégient pas toujours le partage et préfèrent garder leurs logiciels secrets.
Il existe pourtant des logiciels dits libres qui sont plus éthiques et durables. Bien qu'ils soient généralement méconnus du grand public, ces logiciels sont accessibles à tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui pour vous partager des informations à ce propos.
Notre invité est Jean-Yves Janas. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, je vais bien, merci de m'avoir invité.
Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices, puis pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un logiciel libre ?
Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Jean-Yves Janas, merci d'avoir bien prononcé, c'est pas toujours comme ça. J'ai beaucoup de chance, je fais à peu près la même chose dans mes actions bénévoles et dans mon travail, ça n'a pas toujours été comme ça. Depuis 1986, je m'intéresse à la connaissance de l'informatique du citoyen, donc en fait, c'était pas trop à la mode en 1986, l'informatique c'était réservé à des professionnels. Et je faisais ça surtout associativement, comme par exemple pour la mairie de Villeneuve d'Ascq, dans un truc qui ressemble à votre structure. C'était l'Office municipal de la jeunesse et de la culture à l'époque. Et on avait fait une sorte de club informatique ouvert à toutes et à tous. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'université. Donc je suis enseignant de culture numérique. Après avoir fait des études d'électronique, d'informatique fondamentale et de psychologie cognitive. De fait, je balaye un petit peu tout. Et dans mon laboratoire, on travaille sur tout ce qui tourne autour du numérique et de la culture numérique et des usages du numérique. Et donc, parallèlement à ça, je suis vice-président du Club Linux Nord-Pas-de-Calais, CLX, qui a un site web qui s'appelle clx.asso.fr, où vous trouverez plein de renseignements intéressants, et de l'AFUL, Association francophone des utilisateurs de logiciels libres, qui a eu des actions depuis pas mal d'années. Alors les deux datent de 1998, c'est la date importante. Et puis en dernier, enfin, je fais plein d'autres choses, mais je fais partie d'une commission de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui s'appelle EDUCNUM, Éducation numérique. Voilà, je pense que ça suffit.
Oui. La CNIL, c'est pour ceux qui ne sauraient pas la CNIL, qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, oui, bonne remarque. Hein. Donc, Commission nationale informatique et liberté. Alors, c'est une commission, on va dire, indépendante, qui a été créée suite à la loi informatique et liberté. Alors, la première loi informatique et liberté date de 1978, parce qu'il y a des Français, l'État voulait regrouper des fichiers, et il y a des gens qui sont inquiétés du fait que quand on regroupe des fichiers, on a trop d'informations sur les gens. Donc il y a une loi informatique et liberté qui a été créée, et par la suite une commission qui doit étudier si les fichiers informatiques répondent à certaines garanties pour protéger les gens. Et donc la Commission nationale informatique et liberté fait ça. Elle est très impliqué dans l'enseignement scolaire et les jeunes, hein, les associations de familles, de parents, etc. Et dans la commission dont je fais partie, il y a notamment l'association Petite Enfance, le CLEMI, enfin, des tas de structures en fait, qui sont en lien avec les enfants et les jeunes. Donc la CNIL fait. Ah oui, alors la CNIL est aussi habilitée à donner des amendes aux gens qui ne respectent pas les lois. Notamment la loi informatique et le RGPD européen. Donc c'est souvent une vision assez négative qui est donnée. Hein. Ceux qui ne les aiment pas les appellent le gendarme de l'Internet, par exemple. Mais en fait, c'est complètement faux parce que c'est juste fait pour protéger les usagers. Alors évidemment, on comprend bien qu'il y a des gens que ça arrange que la CNIL soit mal vue. Mais ça, c'est un autre sujet peut-être qu'on pourra traiter une autre fois.
Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer les différences entre un logiciel libre et un logiciel non libre ?
Oui, donc pour juste avant de parler de logiciels libres dans le détail, je vais vous faire un petit peu d'histoire. C'est toujours utile de se replonger dans l'histoire, dans tous les cas, mais en particulier dans le nôtre, parce qu'on n'y pense pas pour l'informatique. Dans l'informatique, on est toujours sous le charme ou l'influence des nouveautés qui sortent, au lieu de prendre un peu de recul. Donc l'histoire, ça peut être intéressant, par exemple, pour comprendre pourquoi l'amiante, c'est dangereux, et pourquoi on a utilisé de l'amiante, pourquoi le glyphosate, c'est dangereux, et on a utilisé du glyphosate, pourquoi dans la région, il y a des gens qui sont morts de silicose. Les houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais ne voulaient pas tuer leurs ouvriers, évidemment. Donc c'est des méconnaissances scientifiques qui amènent à des catastrophes. Alors dans le cadre du numérique, on peut remonter pour nous, je pourrais remonter beaucoup plus loin, mais pour nous, on peut remonter dans les années 50 où quand on a commencé à fabriquer des ordinateurs. Alors pourquoi les années 50 ceux qui ont vu le film Imitation Game sur Alan Turing ont peut-être eu quelques notions d'informatique, il a sauvé le monde en inventant une machine, la machine qui décodait les codes allemands. Et donc après les années 50, on a commencé à fabriquer des ordinateurs pour faire de l'informatique d'entreprise, et sous forme de boutade, mais je peux vous dire que c'était presque vrai, on vendait les hommes avec la machine. En fait, quand on vendait l'ordinateur, alors un ordinateur c'était grand comme une salle de sport à peu près, Et on vendait parce qu'il n'y a pratiquement que les gens qui l'avaient construit qui étaient capables de la faire fonctionner. Donc en fait, ça paraît très esclavagiste comme ça. En fait, c'était pas du tout ça. En fait, les gens étaient contents d'aller avec leur machine et ils étaient en plus très bien payés. Donc c'était le principe, pratiquement l'homme vendu avec la machine. Il n'y a que lui qui sait la faire aller. Il y a eu d'ailleurs une très grosse entreprise qui s'est créée à l'époque, dont vous connaissez sans doute le nom, qui s'appelle IBM, et dont le nom signifie International Business Machine. Machine pour faire du commerce et de la gestion. Donc ce n'était pas du tout de la technique informatique pour le plaisir de la technique, c'était pour faire de la gestion, paye, comptabilité, etc., stock. Et donc ça, c'est les années 50 et celles qui vont suivre. Et puis, on va voir que l'informatique va devenir de plus en plus petite, au sens du terme petit, de la grandeur, de la taille, des machines. Et les machines vont devenir de plus en plus puissantes et on aura des machines qui ressembleront à des armoires, qui vont servir dans les laboratoires de recherche et de calcul. Et dans les années 80, il y a un informaticien qui est devenu très célèbre, qui est confronté à un problème d'imprimante. Alors, je souris parce qu'on a parlé d'imprimante dans l'introduction. On imprime, c'est vrai que c'est utile, ça peut être utile. Et donc, il a acheté un ordinateur très cher. À ces époques-là, les ordinateurs de base coûtaient le prix de plusieurs voitures, en fait. Ce n'est pas du tout comme maintenant. Il a une imprimante et le système de son ordinateur change, donc il a une nouvelle version, l'imprimante ne fonctionne plus, c'est un problème d'un des deux côtés, ça ne marche plus et on lui dit qu'il faut repayer. Alors il dit, mais moi je ne veux pas, j'ai déjà payé l'imprimante, le pilote d'imprimante, et donc il est tellement pas content qu'il réécrit le logiciel parce que c'est un ingénieur en informatique. Donc il étudie comment ça marche, et donc cette personne s'appelle Richard Stallman, il est encore vivant, il milite encore pas mal pour le logiciel libre, et il invente une licence, c'est-à-dire qu'il invente une règle juridique qui permet de donner un logiciel à quelqu'un pour qu'il ait le droit de l'utiliser. Donc c'est lui qui a inventé les logiciels libres, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait que ça pas payer une deuxième fois, quelque chose qui pour lui avait déjà payé. Et puis il avait bien conscience qu'un logiciel ça coûte rien. Une fois que c'est écrit, on peut le donner à qui on veut sans que ça nous coûte de l'argent. Donc en fait il ne comprenait pas pourquoi on ne distribuait pas les logiciels. Alors il faut, si on fait un tout petit pas en arrière, il faut savoir qu'au début de l'informatique c'était un petit peu... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des séries télé sur les débuts de l'aviation, etc. C'était quand même une bande de copains avec leur clamolette, quoi, qui se donnaient des pièces. On ne parlait pas d'espionnage industriel, c'était presque l'inverse. Ils s'aidaient entre eux. Et les informaticiens, au départ, s'aidaient entre eux aussi. Et d'ailleurs, ce qui coûtait cher, ce n'était pas le logiciel, c'était la machine. On payait cher la tôle, les composants électroniques, etc. Donc en fait, le logiciel, c'était une partie relativement moins importante, Et donc ça pouvait être donné pour Richard Stallman. Alors l'explication théorique, si on veut aller un petit peu dans les théories économiques, parce que c'est fort utile hein, de comprendre ça, c'est pas juste pour faire de la théorie pour le plaisir, c'est qu'en fait un logiciel c'est ce qu'on appelle un bien non rival. C'est-à-dire que si je vous donne un logiciel, d'ailleurs je pourrais faire pareil avec de la musique ou une image, une photo, ça ne nuit pas à mon usage. Je peux l'utiliser. Hein, donc, il n'y a pas de rivalité. Si je vous donne, enfin, si vous me volez ou si quelqu'un me rachète mon téléphone ou si moi je le donne, je ne l'ai plus. En fait, c'est rival. Il n'y en a qu'un qui peut l'avoir à la fois. Ma paire de lunettes, si vous me la prenez, je ne l'ai plus. Donc, ça, c'est des biens rivaux. Et dans le cas des logiciels ou des ressources numériques, ce n'est pas comme ça. Ça coûte pratiquement rien à distribuer et ça ne prive pas l'utilisateur de son usage. Et donc ça a provoqué un problème et c'est pour ça qu'on parle des logiciels libres, parce que s'il n'y avait pas eu ce problème, en fait, tous les logiciels seraient libres. C'est qu'on s'est retrouvé très très vite avec des produits à vendre, des logiciels, avec une économie globalement issu de l'économie du 19e siècle. Hein. On donne un truc, tu me donnes des sous. Enfin, ça remonte même à plus loin. Hein. Mais là, du coup, on quitte ma spécialité. Donc moi, je dis que c'est globalement des lois du 19e siècle. Hein, on peut parler des lois économiques. Et qu'est-ce qu'ils font, les entreprises? Elles font un profit total. C'est-à-dire qu'elles font 100% de bénéfices. Ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que pour fabriquer mes lunettes, il faut du plastique et du verre. Pour fabriquer mon jeu de cartes, il faut du papier, du carton, etc. Donc il y a de l'encre, donc ça coûte. Là, dans le cas des logiciels, ça ne coûte rien. Et donc, il se trouve que dans l'histoire, les sociétés qui ont vendu des logiciels ont aussi utilisé des mécanismes qu'on appelle pudiquement évasion fiscale, parce qu'on n'a pas trop le droit de dire d'autres mots. Hein. On pourrait parler de fraude, mais pas forcément. Il faut qu'elles soient avérées. Alors, elles sont parfois avérées. Hein. Google est régulièrement puni à des amendes, hein, donc, notamment fiscales. Et donc, ne redistribue pas en salaires locaux. C'est-à-dire que les logiciels sont vendus dans le monde entier, mais en fait, ils sont fabriqués qu'à un endroit. Donc, maintenant, plus concrètement. Alors, sur ça, je ne sais pas, ça suffit comme explication, c'est compréhensible. Donc, parce que je vais m'arrêter là sur ça, je vais maintenant parler concrètement des logiciels libres, hein, pour répondre directement à qu'est-ce que c'est le logiciel libre. Ben, le logiciel libre, il dispose d'un contrat juridique très particulier qui s'appelle la licence libre. Hein, ça a été donc inventé par Richard Stallman dans quelque chose qui s'appelait la GNU-GPL. La licence publique, qui dit que le logiciel est partagé. Il n'est pas vendu. Et la propriété du logiciel, elle n'est pas à une personne morale en particulier. Enfin, elle garde sa propriété morale, mais elle peut être distribuée, par exemple, sans être vendue. C'est possible. On peut aussi le vendre, hein, mais on peut aussi l'offrir. Il faut rappeler qu'on parle beaucoup d'open source. Alors, on entend beaucoup, beaucoup parler d'open source, un peu pour tout et n'importe quoi. Souvent employé par des gens qui ne comprennent même pas le nom du mot source. Parce qu'en fait, c'est assez rigolo. Hein, la source, les sources que tout le monde connaît, c'est là où il y a l'eau qui coule, quoi. Et ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, open source, normalement, ne s'applique que à des logiciels, parce que le programme écrit en mots, ça s'appelle le code source, source code. Et donc, en fait, c'est le programme. Donc, c'est open source, c'est un terme anglais qui signifie le programme écrit. Il est ouvert à tous. Tout le monde peut le regarder. Et donc, ça n'a pas de sens dans certains cas. Et si vous écoutez attentivement à la radio ou si vous lisez les journaux, vous verrez plein de gens parlent de choses open source où il n'y a pas de source, en fait. Et donc, on devrait plutôt parler de libre. À notre niveau, on considère qu'open source et libre, c'est à peu près la même chose. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à travailler sur les différences philosophiques entre logiciel libre et open source, parce que logiciel libre, on a une philosophie derrière de partage qui n'est pas la même qu'open source. Open source, c'est très orienté économie-technologie, c'est-à-dire qu'on partage, mais c'est pas un but de, c'est pas vraiment un but d'intérêt collectif sociétal. Voilà, c'est un peu différent. Mais encore une fois, on n'est pas ici aujourd'hui. Donc on partage le logiciel et on a plus ou moins de droits ou de libertés. Et donc les libertés qui sont offertes. Alors exemple de logiciels qui sont pas libres. Microsoft Windows, Microsoft Office, ce sont des logiciels qui ne sont pas libres. On paye un droit d'usage. Peut-être que vous ne le savez pas d'ailleurs, mais en fait, vous louez les logiciels. Dans le contrat que vous avez signé, que vous avez accepté, vous avez le droit d'usage. Ce n'est pas à vous. Vous avez juste le droit de l'utiliser. Hein, c'est comme la différence entre acheter une voiture et louer une voiture. Si on la loue, on peut s'en servir, mais on est obligé de la rendre. Elle n'est pas à nous. On ne peut pas vendre une pièce ou me faire une modification. Dans le cas du logiciel libre, il va être donc offert à la collectivité. Et en plus d'être offert, on va avoir un certain nombre de libertés. Donc les libertés, c'est Richard Stallman qui les a inventées. C'est la liberté d'utiliser. Donc je peux m'en servir sans demander à personne, suivant la licence. Je peux regarder comment c'est fait. Parce que je dispose du fameux code source, les mots qui constituent le programme. Donc je peux regarder comment c'est fait. Je peux le modifier et si je l'ai modifié, je peux le redonner à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est interdit par un logiciel propriétaire et c'est autorisé qu'un logiciel libre. Alors la question qui vient très souvent, celle-là je l'anticipe au cas où vous ne la poseriez pas, mais après je vous laisserai parler. La question qui revient très souvent, mais moi j'y connais rien en informatique. En fait, vous n'y connaissez rien en droit et puis si vous avez un procès, vous prenez un avocat si vous allez au tribunal. En fait, c'est juste pareil. Vous n'y connaissez rien en informatique, mais si vous avez besoin, vous demandez à un informaticien. En fait, il peut vous aider. Pourquoi ? Parce que la loi, elle est libre. La loi, elle est... En fait, quand on achète la loi, on achète le papier. Mais la loi elle-même, elle est votée par le Parlement, enfin les Parlements, et on en dispose. C'est à tout le monde. On dit d'ailleurs que même normalement, c'est la même loi pour tout le monde. Mais c'est aussi un autre sujet. Exact. Et donc, voilà pourquoi on a créé les logiciels libres. Et donc, je peux compléter si vous voulez.
Je vous remercie pour cette approche un peu théorique. Moi, je voudrais rebondir sur les thématiques abordées, notamment en vue de notre environnement qui est impacté qui a une démarche un peu éco-responsable et où les enjeux sur l'environnement et l'écologie sont des thématiques essentielles. Moi, je voudrais rebondir sur les logiciels. Comment est-ce que vous mesurez votre impact éco-responsable en ce qui concerne l'impact du digital?
Peut-être rappeler que on n'est pas trop sensibilisé à comment est fabriqué un ordinateur, de quoi il est constitué, qu'est-ce qui fait qu'il consomme de l'énergie. Quand est-ce qu'il consomme de l'énergie? Donc le principal rappel à faire, c'est que 80% du coût environnemental d'un objet numérique, téléphone ou ordinateur, c'est sa fabrication et ce qu'il en advient après sa mort. Exactement. Donc en fait, c'est 80%. Donc ça veut dire que l'utilisation, c'est que 20%. Et donc dans ces 80%, il y a un certain nombre de choses plus ou moins moches. Faut des milliers de litres d'eau pour fabriquer ça parce qu'on extrait des terres rares. On va faire travailler des enfants et des personnes quasiment en esclavage pour aller dans des mines très friables qui sont pas étayées, pas étançonnées, où ils tombent notamment. On peut s'interroger, il y a pas mal de reportages sur les mines au Congo. Moi j'ai personnellement vu au Sénégal des terrains vendus pour récupérer, alors je crois que c'était du cobalt, où en fait il y avait des pipelines d'eau de plusieurs mètres de diamètre pour aller envoyer de l'eau pour récupérer les métaux. Et à côté, il y avait des villages de gens qui n'avaient plus de maraîchage, parce qu'en fait, on leur avait pris leurs terres. Donc c'est assez terrible. Et tout ça, ça contribue à la fabrication. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, d'une manière assez... j'allais dire amusante, mais ça, c'est mon côté belge. On aurait pu prédire la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, ce matin, on apprend que Donald Trump a signé des accords avec la Chine pour l'exportation de terres rares. Comme il soutenait l'Ukraine pour ses terres rares et qu'il vient d'avoir un accord avec la Chine, c'est peut-être pas très bon pour l'Ukraine. Encore une fois, c'est un autre sujet. Puis exactement. Moi, je le vois à titre... Enfin, c'est des informations, hein, c'est pas un avis. Et donc, la solution... qu'elle soit pour des aspects géopolitiques comme pour des aspects environnementaux purs, c'est de garder son matériel plus longtemps. Ouais. Si on en fabrique moins...
Est-ce que vous pensez que lors dans le processus de fabrication, on pourrait favoriser un circuit court pour réduire notre impact environnemental, donc ne plus délocaliser notre pollution, entre guillemets, notamment ce qui concerne les métaux rares? Est-ce qu'on pourrait favoriser un circuit plus court pour réduire notre impact environnemental et ne pas délocaliser et réduire les flux, que ce soit bien en ce qui concerne les matières premières et la fin du processus de fabrication? Donc favoriser un circuit court ou pourquoi pas proposer un logiciel français. Je pense qu'aujourd'hui, la France est en capacité de réaliser ce genre de... D'un point de vue technique, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est une question difficile parce qu'elle a beaucoup de branches. Les terres rares, elles sont là où elles sont.
Ah, les métaux rares, exact.
Personne n'y peut rien, qu'ils soient en Chine et en Ukraine et qu'il n'y en ait pas ici dans le jardin. Je crois que personne n'y peut vraiment quelque chose. Donc faire un circuit court, ce serait éventuellement fabriquer les machines plus près de l'endroit où on extrait. Mais ça n'empêche que ce serait extrait dans des conditions déplorables, sans loi sociale, etc. Donc le mieux, c'est d'aller faire en sorte qu'il y ait des lois sociales dans les endroits où on les extrait. Enfin, mais ça dépasse vraiment beaucoup ce que je peux dire. Nous, dans les gens qui sont issus du logiciel libre et qui traitent maintenant ces nouvelles problématiques, notre solution, c'est que moins on construit, moins on a besoin de nouveaux matériaux et moins on va détruire la planète. C'est-à-dire que notre objectif, il est essentiellement de conserver et d'utiliser le plus longtemps possible. Alors, il se trouve que j'ai eu des contacts avec une association qui s'appelle HOP, et Halte à l'obsolescence programmée, et qui travaille sur ces sujets pour d'autres choses que le numérique. Les télés, les réfrigidaires, les réfrigérateurs, les machines à laver, etc. Et donc, même pour une voiture, leur calcul nous montre que si on conserve, c'est toujours mieux que de refaire nouveau.
Oui, exact.
Et d'ailleurs, on parle aussi de réparation de vêtements, etc., etc. Donc, sur les autres éléments... Alors moi, je m'y connais par hasard sur la partie électronique, parce que dans mes études, on m'a appris à rouler les gens.
C'est-à-dire
qu'on m'a appris à calculer comment faire tomber en panne une machine à laver. Vous voyez, j'ai fait de l'électronique au départ. Mais en fait, il n'y avait pas d'aspect moral dans la question. C'est juste, j'ai appris à faire les calculs.
La notion d'obsolescence.
D'obsolescence programmée. Et je peux vous dire que dans le cas des logiciels, des ordinateurs, ça existe. Hein, ça a été rajouté à la loi française il y a peu de temps. Donc il existe une obsolescence numérique programmée. Et c'est sans doute vraiment, vraiment, vraiment le meilleur moyen de sauver la planète en conservant l'usage des outils numériques. Hein, donc la fabrication, elle est ce qu'elle est. Les terres rares, les métaux lourds sont ce qu'ils sont, à l'endroit où ils sont. Pour le mieux qu'on ait à faire, c'est de conserver le plus longtemps ce qu'on a. Il existe des solutions. Par exemple, moi, mon téléphone ici que j'ai dans la main, c'est un Fairphone. C'est une société qui s'assure que les métaux sont extraits dans des conditions humaines, raisonnables, et propose une garantie de réparation de 10 ans. Tout est démontable. C'est même vendu pour rire, hein, avec un petit tournevis. Et donc, on peut vraiment s'en servir. Hein. Je pourrais vraiment vous le démonter si vous voulez. Sur le site, on s'enregistre. Et mon dernier Fairphone, là, c'est un 5, j'avais un 4. Je l'ai eu 5 ans. Il sert encore, il va être recyclé. Et il va d'ailleurs changer de système d'exploitation. J'expliquerai tout à l'heure, parce que c'est la suite de la réponse à la question de monsieur, parce qu'il fallait que je réponde en deux temps, parce qu'il a parlé de matériel et de logiciel. Donc il y a des tas de solutions pour conserver plus longtemps. Par contre, je ne vais pas arrêter de téléphoner pour sauver la planète. Ce n'est pas possible, j'en ai trop besoin. Parce qu'en plus, ça ne fait pas que téléphoner, c'est un ordinateur. Il y a mon agenda, il y a tout dedans. Donc, j'en ai besoin. Mais j'ai appris, en saisissant mon nouveau numéro de série, que je l'avais gardé 5 ans et que la moyenne des gens, c'est 2,3 ans ou 2,4 ans. Et donc, je suis déjà plus de deux fois plus économe que la majorité des gens. Et donc, c'est déjà bien.
Vous pouvez donner des tips de comment vous avez fait pour garder le téléphone aussi longtemps? Deux, trois tips, peut-être?
J'ai juste pas envie d'avoir le plus joli et le plus, Bon, après, moi, il y a des choses qui m'intéressent peu, qui évoluent parfois, c'est la version appareil photo. J'ai des appareils photo qui font des photos, donc en fait, moi, je pourrais même l'enlever, le truc photo. Et faire attention à pas installer trop de logiciels.
Vous utilisez vraiment le minimum en ce qui concerne la fonctionnalité.
Non, en fait, c'est plutôt l'inverse, parce que moi, je m'en sers même pour faire du pilotage de machines à distance, toute ma domotique que je fais moi-même, parce que, comme je l'ai dit, je suis électronicien de formation et informaticien après. Mais bon, donc, je fais vraiment des usages très pointus, mais comme je regarde peu de vidéos, par exemple, on n'a pas besoin de machines qui sont très puissantes. Hein, pour piloter un serveur informatique, il n'y a pas besoin de puissance. Et puis surtout, il ne faut pas être influencé par les modes. Ouais. C'est peut-être ça le plus important. Hein. Mais ça pourrait s'appliquer aux chaussures, je pense. Ouais, donc le conseil, c'est de travailler sur le long terme. Vous avez peut-être entendu parler pour les habits, hein, fast fashion, slow fashion. Dans la technologie, on parle de low-tech. Moi, je suis impliqué dans les low-tech, hein, mais c'est aussi un autre sujet. Donc, il ne faut pas en parler aujourd'hui, sinon je vais être trop long. Donc, on peut tout à fait conserver et accepter. J'aurais dû le ramener, l'autre. Je vous aurais fait une démonstration. Accepter que ça puisse être un peu long.
Oui.
C'est-à-dire que mon ancien téléphone, je l'ai rallumé il n'y a pas longtemps. Waouh, qu'est-ce que c'est long. Mais ça marchait, en fait. Juste, on clique, on attend 2 secondes.
Ouais, c'est parce qu'on est dans une société de consommation, on veut que tout aille plus vite.
On veut que tout aille plus vite. Donc c'est plutôt la mentalité qu'il faut changer. Maintenant, je vais répondre sur ta question sur les logiciels, notamment français, parce que ça, c'est extrêmement important, parce que beaucoup de Français ont contribué à l'évolution du numérique, mais ils sont partis aux États-Unis.
Oui, on déporte souvent.
Oui, les cerveaux, enfin les recherches sont souvent faites là-bas, parce que leurs méthodes commerciales aussi ne sont pas les mêmes. En fait, on a... pas besoin qu'ils soient français, les logiciels qu'on utilise. On a juste besoin qu'ils soient libres, en fait. Alors, il se trouve que la France est un pays fertile pour le logiciel libre, l'Europe aussi, mais aux États-Unis aussi. Hein, Stallman, il est aux États-Unis. Et donc, le principe, c'est qu'il ne faut plus utiliser de logiciels propriétaires, parce que les logiciels propriétaires, pour leur système économique, ils doivent en vendre. Et pour en vendre, ils pratiquent l'obsolescence numérique programmée, comme les gens pour les machines à laver. En fait, les télés, statistiquement, elles tombent en panne 6 mois, 1 an après la date de fin de garantie maximale. Souvent, c'est 4 ans de garantie. Les trucs sont prévus pour durer 5 ans. C'est calculé, hein, c'est des maths, en fait. C'est de la physique et des stats.
C'est des stats, ouais.
Et donc, en fait, il faut faire pareil pour les logiciels. Une fois qu'on a un matériel, on l'a acheté, il est fabriqué, on a extrait des terres rares, gentiment, pas gentiment, etc. Humainement, pas humainement. Ben voilà, il est là. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir des preuves qui soient fabriquées correctement. Donc, Fairphone, en ordinateur, j'ai rien ce qui me vient à la tête, mais bon, voilà, ça doit. Enfin, faut y réfléchir. On va utiliser des logiciels qui vont durer le plus longtemps. Pour durer le plus longtemps, ben, le mieux, c'est de prendre des logiciels libres, parce que leur modèle économique n'étant pas d'être vendu, ben, ils n'ont aucun intérêt à devenir trop gourmands pour ralentir la machine. Il y a un certain nombre d'affaires, je ne les ai pas en tête, mais où les fabricants de logiciels faisaient ralentir leur... Alors, je crois qu'Apple, eux, ils ont été pris la main dans le sac, par exemple. Je ne sais plus sur quel appareil, ça devait être l'iPhone, où c'était carrément un programme qui ralentissait l'ordinateur... Il ralentissait le téléphone.
Ça me dit quelque chose. Ouais, il y a une obsolescence sur les iPhones et ils étaient obligés de... changer d'iPhone.
Voilà. Donc en fait, la solution, c'est de passer aux logiciels libres qui sont naturellement... Alors, ils n'ont pas fait exprès, les logiciels libres, en fait, hein, d'être gentils avec l'environnement. En fait, le logiciel libre, il a été fait pour que ça marche, le plus longtemps possible, parce que comme ça, on n'a pas besoin de le dépanner et que ça rende service aux gens. Et donc, en fait, si vous mettez des logiciels libres, il n'y a absolument jamais personne qui va essayer exprès de ralentir le logiciel. Et donc, on peut... démarrer des machines qui ont 10 ans, 15 ans avec des logiciels libres en faisant attention de prendre des logiciels libres quand même à peu près adaptés à l'ordinateur. Alors, dans mon Repair Lab numérique solidaire que j'ai monté à l'université, c'est au bâtiment P3 pour ceux qui sont intéressés, ça va rouvrir l'année prochaine, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui écoutent, hein, cité scientifique. Donc le Repair Lab numérique solidaire, son adresse c'est repairlab@univ-lille.fr, c'est super facile à trouver. Dans le Repair Lab, on a des jeux de systèmes d'exploitation de différentes puissances qu'on va remettre sur des ordinateurs qui en général nous sont amenés ou donnés par des collègues ou amenés par des étudiants qui disent bah, « ça marche plus, c'est trop lent » ou « ça marche plus du tout ». Et en fait, 9 fois sur 10, on fait des essais avec les systèmes et on finit par trouver un système pas trop gourmand avec une version récente. Hein. Ce n'est pas une question de version, c'est une question de puissance. Et qui va réussir à refaire fonctionner l'ordinateur pendant 2 ou 3 ans. Donc pour répondre à ta question, en fait, c'est ça. Il faut changer mais même le système intérieur de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le système d'exploitation. Bon, en gros, pour faire très simple, Microsoft Windows, ça pratique l'obsolescence numérique programmée. Hein. Enfin, alors, ils vont dire qu'ils ne font pas exprès, mais bon, comme ils augmentent les fonctionnalités, c'est de plus en plus lourd. Et les systèmes Linux ont des versions, souvent, qui sont moins gonflées et qui permettent de faire fonctionner très bien un ordinateur pendant très longtemps. Voilà. Donc,
Vous avez répondu à ma question. Merci pour ces précisions.
Alors, avez-vous des exemples sur lesquels nous pourrions changer nos pratiques numériques en utilisant des logiciels libres?
Oui, oui, j'en ai. Donc, juste avant... Alors j'avais intitulé ma petite page, mon petit anti-sèche concrètement. Donc je crois que c'est ça qu'on veut. Hein. Donc sur tous les systèmes, il existe des logiciels libres. Hein, que vous ayez Microsoft Windows, Mac OS X, donc sur les Macintosh ou des Linux, et sur les téléphones, il y a des logiciels libres. Alors une des difficultés, c'est de les identifier. Donc il faut savoir que ça existe. Bah, je crois que bêtement, un moteur de recherche, ça peut suffire. Hein. Logiciel libre de guidage, ils vont vous envoyer sur OpenStreetMap ou logiciel libre de carte. Et donc, vous ne serez plus obligé d'utiliser les outils Google qui, il faut le savoir, hein, volent et violent nos données personnelles en permanence à chaque fois qu'on les utilise pour être redonnés à la filiale publicitaire de Google qui a 80% du marché mondial de la publicité. Et quand on dit de la publicité, ça peut être aussi des publicités politiques, bien sûr. Hein, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On découvre OpenStreetMap. Si on cherche un navigateur, un logiciel libre, on va trouver Firefox. Si on cherche des logiciels de dessin, il va nous donner GIMP. Si on cherche un logiciel de audio-vidéo pour écouter, on va trouver VLC. Alors VLC, par contre, tout le monde connaît, hein, c'est le cône de travaux publics orange et blanc.
C'est moi j'utilise.
C'est super. En fait, c'est un logiciel libre. Mais en fait, comme il était vraiment meilleur que les autres, il a gagné sans qu'on soit obligé d'expliquer que ce soit un logiciel libre. Et donc, vous allez retrouver plein de logiciels. Alors, il y a des sites spécialisés pour les identifier, etc. Ensuite, il faut les installer. Donc, il faut avoir des compétences de base informatique pour installer un logiciel. C'est vrai que depuis les téléphones, la compétence numérique des gens diminue pas mal. En général, l'école, quand je dis l'école, c'est avec un grand E, hein, c'est l'enseignement français a plutôt fait du mal dans le monde numérique, hein, en proposant des solutions sans moyens, par exemple. Donc, il y aurait beaucoup, beaucoup à discuter. Mais sur l'école, il faut une émission spéciale. Hein, donc, il faut savoir que ce n'est pas terrible, en fait. Les choix ne sont pas forcément les bons. Par exemple, en 1986, le plan informatique pour tous, ils ont décidé que ça ne servait à rien de comprendre comment ça marche. Il fallait qu'on soit des abrutis qui cliquent. Enfin, à l'époque, on ne cliquait pas, d'ailleurs, on faisait entrer. Mais donc pendant des années, il y a des gens qui se sont battus pour dire « Mais non, il faut quand même un minimum, quoi. Le minimum du minimum. » Comme par exemple, à l'école maternelle, on découpe une pomme et on regarde qu'il y a des pépins. On fait pousser des haricots. Hein, vous avez fait pousser des haricots, je suis sûr. Et donc, l'instituteur, s'il a bien fait son boulot, qui était sans doute déjà un prof d'école pour les plus jeunes, peut-être encore un instituteur pour les plus vieux, il a mis le haricot sans eau, avec eau, à la lumière, dans le noir, dans l'armoire. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Quand il y a de la lumière et de l'eau, ça germe. Ouais. Quand il n'y a pas de lumière et pas d'eau, ça ne marche pas. Ouais. Mais en fait, ce savoir de base, pour l'informatique, personne ne l'a. Ça n'existe pas. On n'a rien. On est à zéro. Et donc, en fait, personne comprend des choses comme installer un logiciel, qu'est-ce que c'est un format de fichier, pourquoi il y a des fichiers qui s'ouvrent avec tel logiciel, etc. Et donc, on est pas mal à se battre. Hein. Donc, moi, j'ai fait partie du groupe de travail qui a permis d'écrire le CAPES informatique. CAPES, c'est ce qui forme les profs. Hein. C'est le diplôme pour être prof. Et donc, depuis 2019, ça existe. Alors, le seul problème, c'est que l'État ne met pas de moyens. Donc, on n'a pas beaucoup de profs. Tout le monde ne peut pas choisir l'option. Ce n'est pas forcément obligatoire partout. Alors que notre idée à nous, c'est que ce soit obligatoire pour tout le monde. Donc, voilà, il y a des connaissances techniques à avoir pour les installer. Alors, on peut aussi se faire accompagner pour les installer. Il faut les utiliser. Et alors là j'ai noté carrément, les utiliser, soit on se débrouille avec des supports en ligne, soit on va avoir un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, hein, comme CLX, dont je vous ai parlé, l'association. Donc si vous allez sur le site clx.asso.fr, vous allez trouver des rendez-vous partout dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Et sur le site de la FUL, il y a tous les GUL de toute la France, et même de la francophonie. Donc vous cherchez, vous tapez votre département, vous trouvez des gens, vous allez sur leur site, ils vous rencontrent, et c'est des bénévoles qui vont vous accompagner pour installer, utiliser, etc. C'est assez difficile de démarrer tout seul.
C'est technique,
ouais. En fait, c'est pas technique. C'est que la différence entre la connaissance technique de l'usager... En fait, si je vous donne un sachet de graines, vous allez vous en sortir grâce à votre instituteur. Ouais. Parce que vous savez qu'il faut de l'eau et de la lumière.
La connaissance.
Si je vous donne un logiciel, vous partez tellement de zéro qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire et on ne sait rien. Donc c'est ça que j'appelle l'erreur de l'éducation nationale, hein, l'erreur initiale, hein, on pourrait dire le péché originel si on voulait faire un petit peu... Mais c'est d'avoir cru qu'en fait ça servait à rien de comprendre comment ça marche. Parce que même en mécanique, je me souviens, en sixième, je faisais le dénoyauteur de cerise, un truc... on faisait des engrenages, on faisait des tas de machins, on comprenait un petit peu des choses. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc là, le groupe d'utilisateurs logiciels libres, il va vous aider. Puis après, il y a des ressources en ligne avec des associations. Hein, donc j'ai cité CLX, j'ai cité la FUL, mais il y a aussi Framasoft qui vous propose de vous expliquer... vous montrer des logiciels libres. Il y a des choses au niveau de l'État, hein, s'il y a des élus qui écoutent votre podcast par hasard, ou des futurs élus peut-être, hein, parce que au bout d'un moment, il faudra bien qu'il y ait du renouvellement. La direction interministérielle du numérique de l'État, DINUM, en fait, propose des catalogues de logiciels libres pour les gens et pour les collectivités. Elle accompagne les collectivités, mais malheureusement, dans les collectivités, il y a des personnes qui sont encore... pour faire très gentil, sans dire de mal, qui ont passé le bac avant 2019. Donc là, ça, c'est pour dire qu'en fait, elles n'y connaissent rien, en fait. Elles ne savent pas, elles croient des choses qu'on leur dit, etc. Mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Il faut savoir que dans les années 1900, on a inventé les sciences naturelles, qu'on appelait biologie, pour pouvoir expliquer aux gens des campagnes qu'ils pouvaient avoir des microbes sur leurs mains propres. Alors ça paraît complètement idiot comme ça. Sauf que si on n'avait pas fait ça dans les années 1900, on ne se serait pas sorti du Covid. Parce que vous êtes bien d'accord que le Covid, on l'avait même quand on avait les mains propres. Ouais. Et en fait, il fallait expliquer aux gens qu'il existait, pour venir avant 1900, hein, les maladies, on pensait que ça venait... c'était entre religieux et...
C'est spirituel.
Et encore, je parle de l'Europe, mais si je voulais... je bosse pas mal dans d'autres pays. Là, on a expliqué aux gens par une discipline scolaire donnée à tous les gens, à tous les enfants, hein, c'était la biologie, qu'en fait, il existait des maladies qu'on ne voyait pas et que se laver les mains, ça se protégeait de maladies qu'on ne voyait pas. Et ça, on ne l'a pas dans l'informatique. En fait, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. Ça commence à venir depuis 2019. Et donc, en créant cette discipline informatique, on donne un petit peu de culture aux gens et on espère que d'ici une, deux, trois générations, on aura des décideurs qui auront un petit peu, peut-être elles, ou leurs enfants peut-être, mais qui seront capables de comprendre aussi bien l'informatique que de faire pousser des plantes. Et c'est ça qu'on veut. Donc, retenez qu'il faut trouver les logiciels, c'est pas très compliqué. Il y a des gens qui peuvent vous aider et une fois qu'on a compris les bases, normalement, on peut après se débrouiller tout seul.
Un grand merci. Donc, il y a un système de tutorat qui est mis en place. Donc, pour les plus motivés, il suffit de se connecter en ligne et d'aller vers ouais. les organismes.
Pour ouais, alors le plus motivé, il peut même chercher en ligne des
ah, mais c'est un peu tutos, technique, etc. S'il veut vraiment aller plus vite.
Et dès qu'on est intéressé, on n'a pas besoin d'être très motivé. On est souvent d'ailleurs plus à l'aise avec des gens soit très jeunes ou très âgés, qui n'ont pas eu le cerveau manipulé par les GAFAM, enfin Microsoft, etc. Et donc, ils sont plus ouverts. On va voir les gens dans les associations. Et c'est une des solutions, hein, d'ailleurs, l'atelier numérique, pour expliquer et mettre le pied à l'étrier. Et puis après, savoir se débrouiller.
Après, ça va tout seul.
Ouais, c'est dit en souriant. Les gens, il paraît que le sourire passe à la radio. J'avais entendu une émission.
C'est contagieux.
Que ça se s'entend. Et c'est dit sous forme de sourire, mais oui, une fois qu'on a expliqué les bases, c'est pas plus compliqué qu'autre chose.
Vous avez également parlé de ce podcast de services en ligne loyaux. Qu'est-ce que c'est et quels sont les bénéfices de leur utilisation?
Donc, merci pour cette question, parce qu'elle est moins souvent évoquée, hein. Les logiciels libres, c'est même parfois à la mode. Peut-être vous en entendez parler, open source et de logiciels libres. Un service, pour vous dire ce que c'est qu'un service en ligne loyal, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qu'un service en ligne. Un logiciel, c'est installé sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc vous mettez un programme qui va fonctionner, même si vous êtes connecté à rien, ça marche. Le service en ligne, c'est un peu l'inverse. Il vous faut une connexion à Internet, enfin à réseau, actuellement c'est Internet, et vous allez avoir un échange entre un logiciel et le réseau. Alors, le logiciel que vous utilisez le plus souvent pour interagir avec le réseau Internet s'appelle le navigateur. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais navigateur, c'est par exemple Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sur les Mac, Chromium. C'est une version de Chrome débarrassée des espions de Google, etc. Donc, il y a un certain nombre de navigateurs. Donc, le navigateur, c'est une fenêtre vers l'extérieur. Donc, vous avez votre ordinateur, vous avez votre fenêtre, puis vous regardez dehors, dans les réseaux. Alors, on vous propose un certain nombre de services en ligne que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, je vais donner des exemples. Gmail, c'est un service en ligne qui propose du courrier électronique. Facebook, c'est un service en ligne... qui a été inventé pour mettre en contact des gens dans une université. Donc c'est assez amusant. Mastodon, qui permet de faire du microblog, hein, de poster des petits messages. TikTok, je ne décris pas ça, je ne suis pas spécialiste. Instagram, Twitter, X. Microsoft Office 365. Google, qui est un moteur de recherche, comme Ecosia, etc. ChatGPT, c'est un service en ligne. Et tout ça, ça vous propose des choses en fonction de contrats que vous avez signés ou pas signés. Si vous voulez les utiliser, il faut les signer. Et donc, il vous propose des usages. Et la première chose, c'est est-ce que vous avez signé le contrat, accepté les conditions d'usage de ces services en ligne? En fait, vous avez accepté.
Quand vous dites signer, c'est...
cocher la case.
Ouais, pour les personnes, pour que ça parle, les cookies, quand il écrit tout accepté, ou
conditions d'utilisation. Non, ça c'est la première fois que vous inscrivez, ils vont vous demander si vous êtes d'accord avec les conditions d'usage du service. Quand on crée un compte Google, quand on crée un compte Facebook, quand on crée un compte... Il y a marqué, il y a des conditions d'utilisation, et à la fin c'est marqué j'accepte.
J'accepte.
C'est toujours marqué j'accepte. Alors, il y a peut-être d'autres choses à côté, ouais. Mais il y a j'accepte. D'ailleurs, il y a un artiste qui s'appelle Dima Yarovinsky qui a fait une œuvre d'art qui était exposée à Lille il y a quelques années avec des grands papiers de couleurs sur les murs qui faisaient plusieurs mètres de long et qui imprimaient les conditions d'usage. Donc les conditions d'usage, il faut savoir qu'elles ont été construites par des avocats dont la mission était de fabriquer un texte juridiquement valable mais illisible par quelqu'un de normal. Donc c'est fait pour. C'est pas parce qu'on est mauvais, c'est juste fabriqué par des gens très forts, les meilleurs avocats. Et donc ces conditions d'usage, elles décrivent un certain nombre de choses qui peuvent donner l'impression qu'on est protégé. Voilà, c'est écrit. En fait, c'est... Faut que je fasse attention aux termes que j'emploie juridiques, mais c'est écrit en nous faisant croire que tout va bien, en fait. Voilà, on a l'impression que ça va. Et de toute manière, personne ne les lit. Sauf quand on est juriste ou impliqué dans... Moi, j'ai lu une partie des conditions d'usage de Google, par exemple, de Gmail.
C'est fait exprès pour qu'on ne les lise pas.
Oui, oui. C'est tout à fait fait exprès. Et une longueur et des termes compliqués. Et en fait, comment on définit un service loyal? De temps en temps, il y a des services qui vont faire attention à vos données personnelles, ne pas s'en servir, ou voire ne pas les garder. Et y en a d'autres dont une des parties du modèle économique de leur commerce, en fait, c'est de s'en servir, de les analyser, sans doute de les analyser avec une intelligence artificielle ou avec des algorithmes du même type, ou les revendre à quelqu'un qui va s'en servir. C'est leur modèle économique. Par exemple, le moteur de recherche Gmail, c'est marqué qu'ils ne revendront jamais les données à une autre entreprise. Bah, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, il les donne à une entreprise qui fait partie du groupe Alphabet, qui est la maison mère de Google et de la société qui fait les publicités. Donc en fait, juridiquement, c'est bon, mais ça veut pas dire que vos données ne sont pas exploitées pour être réutilisées. Hein, c'est ça la subtilité. Et comme de toute façon, en plus, les gens ne les lisent pas, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a tout un monde de ce qui se passe avec toutes vos données et surtout vos traces. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un service en ligne, c'est qu'il n'a pas seulement vos données, c'est qu'il a vos traces. On écrit tout. Quand on écrit dans un moteur de recherche, on va poser des tas de questions. On va poser des questions médicales intimes, de vie privée, psychologique. Enfin, et tout ça, c'est enregistré, mémorisé de manière permanente et définitive, même s'ils mettent le contraire dans les conditions d'usage. Et c'est réexploité, parce que ça nous définit notre personne unique. Hein, faut savoir qu'il y a quoi ? Il y a 3,5, 4 milliards d'humains connectés, peut-être 5. Hein. Un ordinateur, ça compte jusqu'à 1 milliard en un quart de seconde. Donc traiter 4 milliards de personnes, c'est super facile en fait. Hein. C'est juste pas un problème en fait, hein, de traiter en temps réel 4 milliards d'informations, c'est très facile. Et donc en fait, ces services en ligne, on le sait pas, mais ils font tout ça. Alors ça a été, il y a deux informations importantes à retenir, c'est d'une part, les protections ne sont pas bonnes, hein, ça a été démontré par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'appelle l'arrêt Schrems 2, du 16 juillet 2020, qui dit qu'en fait les conditions sont non écrites. Alors les conditions non écrites en termes juridiques, ça veut dire que c'est comme si ça n'existait pas, c'est-à-dire on n'est pas protégé, et ça s'applique essentiellement aux sociétés dont les données sont hébergées aux États-Unis, qui sont sous droit états-unien. Pour faire très simple, on pourrait dire que dès que votre service en ligne est hors d'Europe, c'est mort, en fait, parce qu'on n'est pas protégé hors d'Europe. En Europe, on est protégé. Donc, une de mes intervieweuses, tout à l'heure, me parlait d'Ecosia, et en fait, c'est un moteur de recherche, il est hébergé à Berlin. Donc en Europe, les serveurs sont à Berlin. Donc en fait, nos données, à la limite, même si elles sont exploitées, j'ai la main dessus, je peux porter plainte au RGPD. Enfin voilà, je vais gagner. Je pense pas que quelqu'un puisse gagner contre Google et Alphabet. Hein. Oui. Je crois que même les plus riches Français pourraient pas se payer les avocats capables de les payer. Hein. Donc ces sociétés que je cite, hein, ça s'appelle les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et leurs filiales, hein, parce qu'ils ont tout racheté. Hein, ils ont racheté WhatsApp, ils ont racheté Instagram, ils ont tout racheté. Donc quand on dit GAFAM, c'est beaucoup plus que GAFAM. Mais si on mettait toutes les lettres, ça serait trop long à lire. Puis je ne suis pas bon en Scrabble. donc ça serait trop long. Mais en fait, ces gens-là, en fait, ils ont un usage. C'est eux qui fabriquent l'économie. Ils sont plus riches que les États. En fait, les chiffres d'affaires des GAFAM, c'est plus riche que... Alors je pense que c'est plus que les trois plus grands pays d'Europe, que les PIB des trois. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver, puis ils disent à quelqu'un, bah, je te rachète ton pays. Et ils signent, enfin, un petit chèque, et ils rachètent le pays s'ils veulent. Donc ils ont une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Alors il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas dire à la radio de manière publique, mais on va dire qu'ils ont une grosse influence. Hein. C'est vrai que si, je ne sais pas, moi, je te dis, je te rachète tes cheveux, 100 millions de... Bon, ils vont repousser, hein, quick. Ouais. voilà. Donc, ils ont d'autres pouvoirs liés à l'argent. Hein. Alors, ça, c'est la société qui fonctionne comme ça maintenant. Mais ils ont aussi des pouvoirs de conditionnement liés au progrès de la psychologie. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi on n'a pas envie d'utiliser d'autres logiciels que ceux qu'on nous donne ? Bah, parce qu'ils sont fabriqués pour nous conditionner. Tout à l'heure, on parlait de certains hamburgers qui contenaient des exhausteurs de goût, hein, qui sont faits pour rendre bon au goût. En fait, c'est fabriqué pour nous tromper, en fait. Ouais. Hein, c'est pas fait pour nous faire plaisir, c'est pour en vendre plus et continuer à les vendre. Hein. Donc il y a des tas de méthodes de conditionnement, et les réseaux, les services en ligne ont le plus utilisé ce qu'on appelle les biais cognitifs pour conserver leurs usagers. Alors les biais cognitifs, c'est la partie intéressante dans les services en ligne. Et c'est de là qu'on va comprendre la notion de service loyal. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ben, les services en ligne, ils récupèrent nos données et nos traces. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en font de la manipulation mentale. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des comportements des gens. Alors ça a été prouvé lors d'une affaire célèbre qui s'appelle l'affaire Cambridge Analytica, qui est une petite société un petit peu écran. En fait, derrière, c'est Facebook qui est derrière. Et ils ont potentiellement modifié l'opinion de vote de 87 millions de personnes. 87 millions, c'est plus que la France et la Belgique. Hein. C'est ouais. Beaucoup. Et donc, ils auraient potentiellement la possibilité de changer l'orientation des votes d'un certain nombre de gens. Il y a une rumeur. Alors, pour le coup, autant Cambridge Analytica, c'est un vrai procès hein, qu'on peut tracer. Moi, il y avait une rumeur qui me faisait rire à une époque, c'est que Google savait, donc le moteur de recherche Google, connaissait la maison ou le quartier où avait démarré l'épidémie de grippe avant l'agence de santé de française. Ils avaient la faux à l'avance parce qu'ils avaient détecté les gens qui tapaient les symptômes de la grippe dans le moteur de recherche. Ah, donc ça donne des pouvoirs quand même assez impressionnants à ces sociétés qui vont en fait nous faire perdre notre souveraineté. Hein, donc beaucoup de gens au niveau politique, là, même du MEDEF qui vient de publier un truc jusqu'aux gens plus de l'autre côté de l'échiquier politique, on a des gens qui disent il faut qu'on se réveille, il faut qu'on retrouve notre souveraineté. Alors forcément, je pense que le MEDEF, il veut sa souveraineté pour ses objectifs à lui, donc gagner de l'argent. Et puis peut-être d'autres gens à d'autres bords, peut-être, hein, d'autres gens à d'autres bords politiques veulent de la souveraineté juste pour qu'on redevienne autonome, indépendant, et qu'on puisse faire nos choix nous-mêmes. Hein, ma conférence sur les biais cognitifs s'appelle « Nos choix sont-ils vraiment les nôtres ?» Je fais une conférence, d'ailleurs je suis intervenu il n'y a pas très longtemps autour d'ici sur cette conférence. Et donc je vais juste vous expliquer quelques petits biais cognitifs qui sont utilisés par les services en ligne pour vous manipuler. Alors ça c'est une partie plutôt amusante. Hein, donc en fait vous avez le FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de louper quelque chose. Ça fait que vous regardez tout le temps votre téléphone. Alors, tout le temps, même s'il n'y a rien qui s'allume, etc. Et donc, quelquefois, on perdrait quelque chose, donc on défile. Et c'est lié à la notion de récompense aussi, ce qui fait que vous défilez toujours le fil d'information, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent. Vous avez les effets de cadrage, c'est toujours pareil. Alors là, ça ressemble un petit peu aux cookies. Hein, c'est tellement toujours pareil qu'on clique toujours pareil. Alors il y a des gens, ils vont toujours dire oui, d'autres toujours dire non, mais ce n'est pas vraiment réfléchi, en fait. Vous avez l'aversion à la perte. Hein. Quand vous êtes en train de lire un truc, puis il y a une fenêtre qui apparaît qui vous demande votre mail pour continuer. Alors, ça vous embête tellement de perdre le début de l'article que vous avez commencé à lire que vous avez tapé votre mail. Puis peut-être même votre nom, votre prénom, peut-être même votre téléphone. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de perdre ce qu'on est en train de faire. Le biais d'optimisme. Bon, on croit toujours que ça va aller. Hein. Qui c'est qui va se servir de mes données ? Je suis qui ? Je suis quoi ? Ça sert à personne. Bah si, on est identifié, un parmi quelques milliards, parce que c'est facile pour un ordinateur de faire ça. Vous avez un biais d'immédiateté dont on a beaucoup parlé. Mon intervieweur en face, il en a parlé aussi à juste titre tout à l'heure. Hein. On veut tout de suite, tout le temps. Exactement. Et lié au biais d'optimisme, ça veut dire qu'on va faire n'importe quoi tout de suite en se disant de toute façon, c'est pas grave. Ça, c'est quand même un certain nombre de biais cognitifs. Et à un moment, on peut même imaginer que tout a la même importance dans un fil d'information, que ce soit achat écrasé, ou, ce qui est très triste, hein, ou une bombe qui va tuer des milliers d'enfants, enfin des dizaines d'enfants. Et en fait, toutes les infos apparaissent tellement tout le temps en train de défiler qu'on n'est plus capable de faire la part des choses. Donc comment on peut s'en sortir ? Donc là, je vais vous donner aussi des petites pistes pour s'en sortir, hein, parce que c'était peut-être une question. Hein. Vous allez peut-être me dire que je sache si ça vous intéresse quand même, de comment s'en sortir. Hein. Alors vous comprenez bien que là, on a quitté la partie logicielle, qu'on est parti sur les services en ligne et que ne serait-ce que cette notion-là, elle est déjà compliquée. C'est pour ça que je le répète. Hein. Les logiciels, c'est un truc et même... Quand on parle de logiciel, il faudrait distinguer le système qui fait tourner la machine Donc Android et iOS pour les téléphones, par exemple, hein, ou LineageOS ou iOS, parce qu'il y a plein de systèmes alternatifs sur les téléphones, hein, il n'y a pas que Android et iOS. Et puis Mac OS X, Windows, Linux sur les ordinateurs. Donc ça, c'est les systèmes. Au-dessus de ça, il y a des logiciels. Et dans les logiciels, il y en a un, le navigateur, qui nous permet d'aller voir à l'extérieur. Alors il y a aussi des logiciels qui communiquent directement avec l'extérieur, c'est souvent comme ça que ça se passe sur les applications des téléphones. Mais ça reste un logiciel local qui veut parler avec l'extérieur. Donc déjà ça, c'est compliqué. Et après, on doit comprendre que les services en ligne, ils sont sur des serveurs, sur des machines informatiques ailleurs, qui ne sont pas chez nous, peut-être pas tout près, et voire même très souvent aux États-Unis. Une petite anecdote, une fois j'étais en train de travailler, vu que je faisais cours avec mes étudiants, puis on se dit, tiens, on va regarder... par où passent alors ça s'appelle des trams, par où passent nos informations. Donc on tape une commande sur l'ordinateur et puis on va chercher Instagram. Et puis on voit que ça sort de France et ça part aux États-Unis et hop, ça revient en passant par l'Irlande, je crois. Et là, même moi, en fait, je ne m'attendais pas à ça. J'étais bluffé parce que ça veut dire que notre information, en fait, elle est partie, elle a été dans des pays qui ne sont pas couverts par la loi. En plus, elle peut être stockée chez Instagram, et c'est seulement après que ça revient chez nous. Donc ça, c'est des choses, c'est des manipulations. Alors ça, c'est une manipulation technique, hein. Tout le monde ne peut pas la faire. Et en plus, ils ont des méthodes de masquage qui font que ça ne se voit plus. C'est pas facile à tracer vraiment où vont les données. Mais donc tout ça pour dire que c'est important de comprendre la notion de service en ligne. Et donc le service en ligne loyal, bah, c'est celui qui va respecter ce qu'il a dit et par exemple ne pas utiliser nos données, ne pas utiliser nos traces. Alors ici, je vous propose une méthode qui s'appelle les 4 P, les premiers plus petits pas. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire en premier de plus simple pour essayer de m'en sortir des services en ligne loyaux. Alors, j'ai mis un ordre qui n'est pas forcément à respecter, mais qui est une idée, c'est de commencer par son moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche, parmi les plus déloyaux, se trouve Google, Bing. D'ailleurs, je sais même plus, j'utilise pas ces trucs-là depuis tellement longtemps que je sais même plus leur nom. Il y en a un qui est, il y en a plusieurs qui sont loyaux. Donc c'est vrai que Ecosia fait partie de ceux qui sont loyaux. Après, on trouve aussi
Lilo, c'est plus.
Alors, j'ai pas tout étudié en fait. Il faudrait juste regarder où c'est hébergé. Je ne les sais pas par cœur. Alors, ça pourrait se trouver assez rapidement en cherchant à qui appartient le nom de domaine, en regardant où ces données sont hébergées, en lisant les conditions d'usage, etc. En faisant des petites manips techniques comme Traceroute ou Ping, puis essayer de voir où c'est hébergé vraiment. Donc, moi, je peux vous dire que DuckDuckGo, par exemple, c'est un moteur de recherche respectueux des données. StartPage aussi, mais Ecosia, c'est bien. Alors, il y a eu un essai avec Quant en France. On a toujours été embêtés, nous, dans le monde du libre, par Quant, parce qu'ils ont fini par signer un contrat avec Microsoft Azure. Et en fait, à partir du moment où on a signé un contrat avec Microsoft Azure, bah, on sort de la loi RGPD. Donc, ils peuvent nous garantir tout ce qu'ils veulent. Au final, si les données vont aux États-Unis, elles sont... Il y a quand même une société, je ne sais plus laquelle, qui a privé de courrier électronique un procureur aux États-Unis. Hein. Donc, on est quand même dans des contextes où les sociétés informatiques, elles peuvent influer sur ce qui se passe vraiment. Ils peuvent couper, l'Australie a voulu le faire pour se protéger d'un petit truc. Alors, en fait, Google est en train de piller la production journalistique mondiale. Hein. Donc, en fait, les journalistes ne vont plus être payés, ils vont disparaître. Si ça continue comme ça, hein, peut-être des gens vont résister. L'Australie a voulu résister. Google a coupé les services de Google. Bah, en fait, les Australiens, ils ont abdiqué. Enfin, la population n'est pas capable actuellement de quitter tous les services déloyaux d'un coup et tous les logiciels propriétaires d'un coup. Donc, moi, je propose de changer de moteur de recherche. Ensuite, on peut changer de service de courrier électronique. Parce que bah, le pire, quand même, c'est Gmail, hein, qui prend nos données pour les exploiter, les revendre. Hein. Ils définissent notre profil psychologique, ils sachent comment nous convaincre. Et donc, il y a plein de solutions. En France, on connaît la poste.net. C'est une convention entre le Premier ministre et la Poste. Donc, qui fournit un service de courrier électronique gratuit. enfin, ça fait partie du service public. Vous avez des petites associations. Il y en a une qui est très marrante qui s'appelle sudouest.org, parce que c'est dans le sud-ouest. Mais sur Internet, il n'y a pas de frontières. Hein, donc on peut aller à Sud-Ouest, hein, qui propose des courriers électroniques à prix libre. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne paye pas. Et si on estime qu'on peut payer, on paye. Donc c'est une mentalité qui est très proche de la philosophie du libre. Et puis il y en a des tas d'autres. Hein. Alors il y a les Suisses, très connus, Proton Mail, Infomaniac, etc. Mais ils sont en Suisse. La Suisse, ce n'est pas l'Europe. Donc je suis toujours un peu embêté avec ça. Cela étant dit, ce n'est pas non plus états-unien. Et puis vous avez les services de vos opérateurs Internet. Ce n'est pas forcément recommandé si vous êtes amené à changer. Mais au moins, ils sont hébergés en Europe et ils sont loyaux. Et puis vous avez des petites associations. Alors il y en a une qui est marrante, c'est l'autre.net. C'est écrit l'autre-collé.net, donc ils proposent du courrier. Moi, j'utilise beaucoup de services chez domainepublic.net, c'est à Bruxelles, c'est dans le pays où j'habite. Et donc, il y a plein de moyens de trouver des services de courrier électronique qui peuvent très facilement se lire sur le téléphone. On configure le logiciel de courrier, et la difficulté n'est pas très grande. Au début, on peut même se faire aider par les gens du logiciel libre, hein, des groupes d'utilisateurs de libre, et puis voilà, on configure son courrier électronique. Le tout, c'est de plus utiliser les services déloyaux. Changer de microblog, donc plus utiliser Twitter. Alors là, on a été bien aidé par Elon Musk, hein, quand même, qui a quand même fait assez fort pour... Cela étant dit, c'est vite oublié. Hein. Je pense que plein de gens sont encore sur Twitter et continuer à s'en servir. Et de toute façon, Twitter n'est plus le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est LinkedIn, qui est utilisé par tout le monde et propriété de Microsoft, qui fait partie des GAFAM et qui fonctionne avec le même modèle. Donc là, on peut proposer... Alors pourquoi on parle de Twitter ? Parce qu'il existe Mastodon. Mastodon, qui est un système de microblog libre, parce qu'on peut choisir son pod. Alors son pod, c'est son serveur, et on peut prendre des serveurs qui sont en Europe. Tout ça, c'est... alors oui, j'ai mis 4P, oui, mais ça n'a rien à voir avec 3... Enfin, je vous ai proposé 3 idées, hein, moteur de recherche, courriel et microblog. Mais à chaque fois, chaque service, hein, on peut faire autre chose que Facebook, on peut faire un blog, on met soi-même sur un serveur de blog, on peut faire des listes de diffusion pour communiquer avec ses amis, on peut ne plus utiliser WhatsApp et utiliser d'autres services, hein, comme Signal, par exemple, ou d'autres. Enfin, il y a toujours des solutions alternatives qu'on peut trouver pour tout, plus ou moins respectueuses. Alors, l'idée, c'est pas d'être 100% respectueux, propre, environnementaux, etc. Je sais très bien que mon ordi et mon téléphone, ils ont coûté des métaux lourds, des terres rares et de l'eau, etc. Mais celui-là, je vais essayer de le garder longtemps. Et au moins, je sais qu'ils ont été vérifiés dans les villages, que les gens étaient bien traités. Et celui-là, bah, j'essaie de le garder le plus longtemps possible. Hein. Il a 5 ans aussi. Peut-être je vais garder 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, voilà, le plus longtemps possible. Parce que je l'ai acheté sous Linux directement. J'utilise plus le logiciel propriétaire depuis quand même pas mal d'années. Bien sûr que tout fonctionne très bien, il n'y a aucun problème.
Enfin, c'est acheté, reconditionné ou réparé avant de jeter et de
Alors, acheter neuf. C'est une très bonne idée. S'habituer à acheter reconditionné, c'est une très bonne idée. Et le mieux, c'est même de récupérer des ordis et de les pratiquement les reconditionner soi-même dans un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, dont pour la majorité d'entre eux, une grosse partie des activités, c'est de réinstaller les ordinateurs, sachant que Microsoft Windows, quand on ne fait pas trop attention, ça peut se pourrir en 6 mois de temps. Quoi. Ouais. Et avec un système Linux, ça arrive très peu par conception, en fait. C'est un petit peu un bateau avec une coque unique et un bateau avec des cloisons. La conception interne de Microsoft Windows, c'est un bateau avec une seule coque, donc on fait un trou, il est percé, il coule. Et la conception de Linux, c'est plutôt des cloisons. Alors vous allez me dire, le Titanic, il a coulé quand même. Sauf que il y a beaucoup de bateaux à cloisons qui n'ont pas coulé parce que justement, il y avait des cloisons, hein, qui permettaient de garder la flottaison et de sauver les gens. Hein. C'est ça, hein, un petit peu Linux. Hein. L'idée, c'est que ça peut être un peu abîmé, mais au moins, on peut rentrer au port et on n'est pas mort. Et puis peut-être de temps en temps que ça va complètement casser. Mais ma machine, moi, elle se plante, je ne sais pas, 2-3 fois par an. Et donc, je l'éteins de force et puis elle se rallume. Mais bon, ça arrive 2-3 fois par an. Alors, sur plusieurs années, c'est vrai que sur les 2-3 fois, des fois, ça peut arriver au mauvais moment. Mais quand je pense à mes anciennes machines sous Windows ou sous macOS qui plantaient n'importe quand tout le temps comme ça, Ça me suffit. Puis bon, après, il y a l'éthique. Hein. Voilà des solutions. Il y a des tas de réponses dans un document de la CNIL qui s'appelle le cahier innovation et prospective numéro 6, la forme des choix. Alors, si vous avez un endroit où mettre des liens, vous pourrez mettre le lien. La forme des choix, c'est des chercheurs qui ont expliqué pour le grand public, alors ça fait une quarantaine de pages, tous les biais cognitifs, et notamment, ils expliquent que les plus grands ingénieurs du monde, maintenant, ils cherchent à faire cliquer les gens, ils cherchent à capter leur attention. Avant, les grands ingénieurs du monde, c'était Marie Curie, c'était Pasteur, c'est des gens qui voulaient aider, sauver. Même Turing, il a écrit le logiciel qui a déchiffré la machine Enigma, le code allemand qui tuait des gens, en fait. Donc, tous les meilleurs du monde, en général, ils essayaient d'aider. Maintenant, les meilleurs du monde sont tous recrutés pour faire... Alors, pour moi, c'est mal. Après, ça dépend. La vision du bien et du mal, je suis pas habilité à la dire d'une manière globale. Mais enfin, en gros, ils aident pas les gens, quoi. Ils aident leur patron. Hein. Faut savoir qu'un des meilleurs informaticiens français en intelligence artificielle est embauché par Facebook. Dans un contrat de droit américain, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de dire du mal de son employeur, sinon on est viré. C'est dans leur contrat. Donc, moi, même s'il est très gentil, ce monsieur, et même s'il est très bon, c'est sans doute le meilleur du monde, je l'ai dit en premier, il est pas neutre. On ne peut pas lui faire confiance. Hein, c'est un petit peu le mensonge par omission. Donc, une des solutions... Donc le risque, c'est d'arriver à un obscurantisme numérique où les gens, ils font tout ce qu'ils croient. Enfin, ils croient des trucs, ils les font, etc. Notamment, ils croient que les logiciels libres, c'est compliqué, que les services en ligne, ils sont gentils, etc. Ou alors, il faut former tout le monde. Hein. Donc, la solution, c'est d'une part de se forcer soi-même à chercher des services en ligne et des logiciels libres et des services loyaux. Et puis former tout le monde le plus possible. Alors ceux qui veulent de la formation théorique, vous avez un bouquin de 800 pages. Alors je ne sais plus. Alors il y a une version anglaise et française. Hein, donc il y en a une qui fait 600 et l'autre 800 pages qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance » par une chercheuse qui s'appelle Shoshana Zuboff qui a étudié pendant 10 ans comment fonctionnaient les GAFAM pour en sortir son bouquin qui explique tout. Il explique tout comment ça marche, quoi. C'est assez intéressant et impressionnant. Mais l'idée, c'est quand même de comprendre qu'on doit se former et de former tout le monde.
C'est joliment dit.
Avez-vous d'autres remarques ou informations ajoutées ou, sur le sujet ou,
une conclusion
Oui, exactement.
Donc, sous forme de conclusion, faut bien comprendre que c'est difficile de changer nos habitudes. Et ça fait 20, 25, 30 ans que des sociétés essayent de nous conditionner à utiliser leurs produits. Ouais. Donc c'est pas facile. Même quand on en est conscient, j'ai pas arrêté Windows du jour au lendemain. J'ai pas réussi à arrêter tous les... D'ailleurs, il me reste LinkedIn. J'attends ma retraite pour l'arrêter. Parce que en fait, ça sert professionnellement et ce serait parfois gênant. De ne pas y être. Hein, donc, alors, on a toujours le choix. Merci. Mais des fois, le choix, il impacte plus ou moins les choses. Donc ça, c'est une première chose. Ce n'est pas facile. L'autre partie, ça paraît contradictoire, c'est que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas difficile non plus. On va continuer à utiliser des outils qui se ressemblent. Passer de Microsoft Office à LibreOffice, c'est pas très dur. C'est quelques minutes d'adaptation. D'ailleurs, en général, les très très jeunes et les très très vieux ne voient pas la différence. Ouais. Comme ils sont pas conditionnés, ils voient pas. Ça change, mais ça va. Alors j'ai plein d'anecdotes sur ça. Hein. Une dame qui refusait d'utiliser OpenOffice à l'époque et on avait renommé... ça c'est moi avec mes élèves de collège, j'avais renommé Word en traitement de texte, mais la dame, on lui avait dit qu'il y avait une nouvelle version de Word et il lui avait mis OpenOffice, mais il avait renommé l'icône Word et il lui a demandé, alors ça te plaît? Ah ouais, il est bien le nouveau Word, il est bien, parce qu'en fait quand on change de version, ça change. Donc en fait, à partir du moment où on dit que ça va changer, on accepte le changement, hein. C'est vraiment d'accepter le changement. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à se renseigner. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui doivent nous pousser à changer. Hein. Il y a les raisons environnementales qui ont été traitées Au début, moi j'avais prévu d'en parler à la fin, mais enfin, ça n'a aucune importance, je peux en reparler. C'est vraiment important parce que il y a 2 ans, on disait que le numérique allait dépasser l'aviation dans quelques temps. Là, à mon avis, avec l'arrivée des fermes de serveurs pour faire les calculs de requêtes en intelligence artificielle, à mon avis, le numérique dépasse déjà l'aviation en pollution. C'est une question de moi, en fait. Hein. Il faut savoir qu'une requête à un moteur de recherche, c'est 80 fois plus gourmand en énergie que d'écrire l'adresse d'un site web dans un navigateur. Donc ça consomme 80 fois plus et 20 fois plus. Alors, tous ces chiffres sont toujours discutables, hein, mais donner à manger à une intelligence artificielle, une intelligence artificielle, ça n'existe pas. Hein, c'est un algorithme statistique qui va aller chercher de l'information, la triturer, pour après fabriquer une information qui a une apparence crédible pour l'être humain. On pourrait faire d'autres choses, hein, mais donc des textes qui sont appropriés, des images qui ressemblent à quelque chose. Et donc, en fait, j'avais lu qu'une l'entraînement d'un algorithme, ça consommait 1 an d'énergie d'une ville de 6 000 habitants. Ouais. C'est des chiffres qui sont énormes, en fait. Ouais. Bien plus énormes que les avions, hein. Et donc, je pense que c'est assez facile de stigmatiser les avions et les voitures. Mais encore une fois, moi, j'ai une voiture en tôle, en aluminium, qui roule au bioéthanol et où il y a très peu de plastique, parce qu'il y a encore un peu de bois et du cuir. En fait, j'ai changé le moteur, je change des pièces en échange standard, c'est infiniment plus écologique que quoi que ce soit, quoi.
Oui.
Qu'est-ce que soit ce que j'achète. D'autant plus que pour les batteries, on pourrait expliquer que il y a peut-être des personnes qui ont laissé la vie ou la santé à extraire les métaux lourds dans chaque batterie, quoi. Donc c'est assez, c'est pas très gai, en fait, hein, c'est pas très intéressant. Garder une vieille voiture, c'est pas si mal, même si elle va consommer un peu d'essence. Enfin, dans le cas de l'éthanol, c'est particulier parce que c'est fabriqué à partir de graines. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui rigotent sur « oui, mais on donne pas à manger, alors bah, on peut la faire avec du jus de betterave. Tu en bois du jus de betterave ?» Ben non.
Oui.
Voilà. Et puis, les terrains, il y en a à certains endroits, donc c'est discutable. Mais au moins, c'est pas du matériel fossile. Donc, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte que le numérique... En fait, quand on parle des voitures et des avions, tout le monde dit « ah oui, oui, c'est vrai ». Les SUV, les machins, enfin, moi j'aime pas esthétiquement, après, ça, c'est chacun ses goûts, les gros 4x4, etc. Mais en fait, là, maintenant, là, le numérique, ça va consommer plus. Et les gens continuent à regarder des vidéos de chats, des vidéos stupides de chats qui vomissent sur Facebook, etc., qui n'apportent absolument rien. Et ça, ça consomme. Hein. Le Shift Project, encore une fois, c'est discutable, mais avait démontré que 80% de la consommation des réseaux, c'était la vidéo. Donc, ne plus regarder de vidéos tout le temps pour n'importe quoi, c'est déjà pas mal. Faut quand même savoir que si pour faire un tuto, vous faites un PDF de quelques pages, même avec quelques photos dessus, ça va consommer rien. Vous faites une vidéo où déjà, il y a 3 minutes de perdu pour dire bonjour, comment ça va, et puis au revoir, tout va bien. Alors, c'est parfois utile, hein, les vidéos. Mais le problème, c'est que quand on s'en sert tout le temps... Ben ça augmente la pollution et ce sera pareil avec l'intelligence artificielle. À force de faire des requêtes qui consomment beaucoup, moi je fais beaucoup de parallèles avec d'autres endroits. J'ai fait beaucoup d'humanitaire en Afrique, d'accompagnement plus ou moins humanitaire. Et en fait, il y a des pays par exemple où on économise naturellement l'eau, il y a des pays où on économise naturellement l'électricité, on éteint les lumières, etc. Il y a plein d'endroits où en fait, quand il y a plein d'eau, on ouvre le robinet, puis ça coule, et puis. Voilà, on n'est pas du tout formé à ça. Et donc, naturellement, on n'a pas de tendance à faire ça. Et pour le numérique, c'est très compliqué. Parce que je pense qu'expliquer la pollution des voitures, des avions, le gaspillage d'eau, etc., c'est assez facile. Tout le monde comprend à peu près. Dans le numérique, on ne comprend pas. On ne comprend pas le problème. On ne comprend pas qu'il y a un problème,
ouais.
En fait. Donc, il n'y a personne à les bases. Et forcément, quand vous voyez les affiches... Alors, hier, j'étais à Paris pour la formation numérique, d'ailleurs, des étudiants. Il y avait des affiches comme quoi Instagram demande au gouvernement de vérifier la... Vous n'avez pas vu ? Ça, c'est pas encore arrivé dans le Nord, peut-être. Donc il y a des grandes affiches, comme les affiches des arrêts de bus, là, où c'est marqué Instagram demande à ce que l'âge des enfants soit contrôlé. Mais c'est du pipeau. Enfin, je veux dire, c'est leur loi, de toute façon, les lois ne s'appliquent pas. C'est pour faire croire aux gens qu'ils sont gentils. Quoi. Enfin, ils vont continuer à exploiter les données de tout le monde, etc. Enfin, en fait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est très, très employé par les GAFAM. Ça. Et en fait, on peut avoir l'impression que c'est bien, que c'est utile. Ça commence à devenir dangereux. Ça commence à devenir dangereux d'une part pour la façon dont les cerveaux sont manipulés ou l'information est présentée, et pour la planète, parce que ça coûte. Hein. Ouais. Acheter l'iPhone 47 ou le Samsung 32, ben voilà, ça consomme sans arrêt. Et on consomme pour utiliser des services qui eux-mêmes consomment de plus en plus, etc. Donc ça peut éventuellement aller vers une spirale assez négative. Alors que ça aurait pu être très bien. Hein. Le mec qui a inventé Internet, il s'appelle Tim Berners-Lee. Il avait inventé ça pour partager la connaissance dans le monde. Hein. Ouais. Et dernièrement, il a écrit « si c'était à refaire, je ne le ferais plus hein. ». Il n'inventerait plus Internet, quoi, ouais. Parce que ça sert à manipuler les gens. Donc voilà. Donc les logiciels libres et la philosophie des logiciels libres, qui est aussi celle des services en ligne loyaux. D'ailleurs, vous avez une définition sur le site de la FUL, hein, dans notre juridique, la déclaration de l'association, statut. Dans nos statuts, on a l'article 1B, 3B. Enfin, il y a un article qui définit la loyauté des services en ligne, que ça doit respecter les données des gens, pas les utiliser, les informer de ce qui se passe, etc. Mais encore faut-il que les gens soient formés pour comprendre. Hein, donc, faire des ateliers numériques dans les collectivités... où on va, par exemple, utiliser le jeu de cartes numériques éthiques. Je crois que j'en ai pas encore parlé. Hein. Metacarte au pluriel, .cc. CC pour Creative Commons. Ouais. Donc, vous avez des cartes pour travailler depuis le collège. Hein. Avant, c'est quand même un peu difficile, mais du collège jusqu'à la maison de retraite, on peut réfléchir à comment utiliser le numérique de manière éthique, aussi bien pour donner du sens à nos actions, de nos valeurs, le développement durable, l'accessibilité, le respect des droits humains, etc. Tout ça, c'est traité dans le jeu. Et il y a moyen de faire appel à CLX. Alors oui, contact@clx.fr, ça sera sans doute donné. Vous pouvez nous contacter pour avoir des informations sur les logiciels libres et les services loyaux. Voilà.
Eh bien, nous touchons à la fin de notre podcast. Merci beaucoup, Jean-Yves Janas, de nous avoir consacré votre temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt sur notre radio. Prenez soin de vous et à bientôt sur la web radio du Chemin Rouge.
Au revoir. Merci.